Accent d'Europe, Juliette Garbrandt.
Bonjour. L'un des enjeux de la transition écologique, c'est aussi de reconvertir des emplois pour limiter l'impact de la fermeture de certaines activités polluantes sur l'économie et le niveau de vie de la population. Et c'est souvent un casse-tête, surtout dans des régions rurales isolées, par exemple dans l'est de la Russie. Près du lac Baïkal, la fermeture d'une papeterie particulièrement polluante a mis 5000 personnes au chômage et condamné une ville entière. Un autre exemple, dans cette région voisine, où une usine extrait de l'or des rivières aurifères. C'est une région préservée, éloignée de tout, à l'écosystème fragile. L'usine rejette du cyanure et d'autres substances poisons dans l'environnement, mais elle représente aussi à elle seule 15% des emplois de la région et les salaires y sont trois fois plus élevés qu'ailleurs. Comment concilier écologie et économie? C'est un reportage en Sibérie de Jean Casset.
Un vent froid balaie le plateau montagnard. C'est un froid sec, mordant, celui d'un climat continental, dont on devine, en cette fin d'automne, que ces hivers sont sans merci. Nous sommes dans les monts Sayan, du côté russe de la frontière russo-mongole, en plein cœur de la Sibérie. Un paysage de steppes, de montagnes et de forêts primaires, de monastères bouddhistes et de sanctuaires, où l'on vient encore aujourd'hui implorer la protection des esprits. C'est ici que vivent les Soyotes, la plus ancienne, dit-on, des ethnies mongoles, au milieu d'une nature grandiose et inhospitalière, où l'activité humaine est rare et difficile. On y vit de l'élevage, un peu, surtout des vaches, des chevaux et des yaks. La région est pauvre et difficile d'accès. Sa capitale, Sorok, compte moins de 800 habitants, et la grande ville la plus proche, Irkoutsk, est à 2 jours de voiture, par des routes de montagne à l'asphalte défoncé. Ici, l'éloignement démultiplie les maux traditionnels de la province russe. Chômage et exode rural érodent rapidement sa population. Mais il y a aussi une richesse, l'activité minière. Ici, au fin fond de la vallée de l'Oka, juste en face de la cascade de Jambalok, la montagne est balafrée par un ensemble de carrières à ciel ouvert et de hangars blancs entourés de pelleteuses et d'engins de chantier. C'est une mine d'or, elle appartient à Khujir Enterprise, et à elle seule, elle emploie 100 personnes dans une région qui ne compte qu'un peu plus de 5000 habitants. Bayarma Barchikhanova est vice-présidente de la région, en charge des questions économiques. Pour elle, l'apport de cette mine est au cœur de la vie économique locale.
Khujir Enterprise est une entreprise structurante pour notre région. Déjà par les impôts qu'elle verse au budget. 36 millions de roubles l'an dernier. Pour 2021, ça devrait s'élever à 60 millions de roubles. Et le salaire moyen par personne y est de 91 000 roubles. Alors qu'en général, dans les autres secteurs d'activité, le revenu moyen est ici de 27-28 000 roubles par personne.
91 000 roubles, c'est un peu plus de 1000 euros, contre 350 en moyenne pour les autres emplois. C'est dire si ces places dans la mine d'or de Khujir Enterprise sont privilégiées et cruciales pour la vie de la région. Mais sa présence ne satisfait pourtant pas tout le monde. Alexei Papayev est professeur à l'école d'Orlik depuis 20 ans. Il s'inquiète beaucoup de son impact écologique.
Pour le moment, on ne voit pas de pollution. L'usine n'est ouverte que depuis un an. Mais dans plusieurs années, elle sera sans doute colossale. Cette usine est construite en plein centre de nos meilleurs pâturages, là où vit la majorité de notre peuple. Et elle va causer des dégâts irréparables à l'environnement. Le minerai d'or est traité avec du cyanure, un poison violent. Regardez, là-bas, on voit un terrain immense, des centaines d'hectares dans lesquels ils stockent l'eau polluée au cyanure. Les représentants de l'entreprise disent que tout est fait en cycle fermé, sans polluer. Mais toute technologie peut endommager l'environnement. Cette terre est très fragile. C'est un territoire de haute montagne. Le sol est pauvre et toute intervention humaine l'affaiblit.
Pour Alexei, l'avenir de la région n'est pas dans l'exploitation minière, mais dans la préservation de l'écologie et le développement du tourisme. Mais difficile d'imaginer, sauf à très long terme, le tourisme remplacer ici l'industrie. D'ailleurs, la mine d'or de Khujir Industries a déjà fermé entre 2014 et 2018, avec des résultats désastreux pour la population. Bayarma Barchikhanova.
La fermeture de l'usine a été très mauvaise pour le niveau de vie. Les gens se sont retrouvés sans travail. D'autres ont dû partir dans d'autres mines, plus lointaines.
Et puis, là encore, l'isolement des monts Sayan pose problème. Les touristes n'y sont que quelques centaines par an, et les infrastructures pour les accueillir n'existent pas. Il n'y a ni hôtel, ni route de bonne qualité, ni itinéraire touristique, tout est à construire, à partir de zéro, et avec d'immenses difficultés pour trouver des investissements. Par exemple, ce n'est que tout récemment que les villages Soyot ont enfin été couverts par leur réseau de téléphonie mobile. Et les antennes ont été financées par Cogir Enterprise.
C'est un projet de plusieurs milliards d'euros soutenu par le gouvernement de Serbie. Le géant minier Rio Tinto prévoit d'exploiter dans l'ouest du pays l'un des plus importants sites de jadarite au monde. La production de ce minerai, utilisé pour faire des batteries électriques, est un enjeu économique majeur. Mais depuis plusieurs mois, une partie de la population se mobilise contre ce projet dont elle dénonce l'impact destructeur pour l'environnement et pour la santé. On écoute le reportage de notre correspondant Louis Seyé.
Ici, il y a des fuites d'arsenic. Vous voyez là, tout autour, et ça fuit en permanence depuis 4 ans.
Marijana Petković se rend régulièrement dans les champs de maïs et de soja qui bordent la rivière Jadar, dans l'ouest de la Serbie. Depuis plusieurs années, la multinationale minière anglo-australienne Rio Tinto explore le sous-sol de la région. La vallée abriterait l'un des plus importants gisements de lithium au monde. Un projet à plusieurs milliards d'euros qui est soutenu par le gouvernement serbe, mais pas par les habitants comme Marijana.
Toutes les rivières de la région sont en danger. Le Jadar, la Drina, la Sava et le Danube, elles sont toutes en danger. Les gens de Rio Tinto ne peuvent pas nous garantir qu'il n'y aura aucune pollution. Ils reconnaissent qu'il y aura des pollutions, mais dans quelle mesure? Ils disent seulement qu'elle sera limitée. Mais quelles sont les limites pour Rio Tinto? On a vu ce qu'ils ont fait en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Madagascar, ils ont tout détruit et tout empoisonné. On ne peut pas croire ce qu'ils disent et être manipulé comme des marionnettes.
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Madagascar ou encore Australie, les activités du géant minier suscitent souvent la controverse. L'an dernier, son PDG français a été poussé à la démission. Pour extraire toujours plus de fer, l'entreprise avait réduit en poussière un site sacré aborigène vieux de 46 000 ans. Dans la vallée serbe du Jadar, Dragan Karicic est maire du village où pourrait être construit l'usine de production de lithium.
On sait ce qu'a été l'attitude de la compagnie dans les autres pays. Elle a tout pollué, détruit, anéanti et tout retourné. Ils feront la même chose ici en Serbie et avec cette vallée. Que restera-t-il du village si les gens de Rio Tinto se mettent à extraire ici de la poussière et des explosions sonores? Il n'y a aucune garantie pour quoi que ce soit. Si la mine est ouverte, il n'y aura plus de vie dans les 100 km à la ronde.
Du côté de la multinationale, on assure mettre tout en œuvre pour limiter l'impact de la mine qui devrait fonctionner pendant 40 ans. Mais les habitants de la vallée s'inquiètent pour leurs ressources en eau et notamment pour le stockage des quelques 57 millions de tonnes de déchets que prévoit le projet. Zlatko Kokanovic est paysan. Il est aussi le président du collectif Ne donnons pas le Jadar.
Notre vallée du Jadar est l'une des vallées les plus fertiles de Serbie. Cette année, par exemple, a été une année sèche. Il n'a pas plu pendant 2 mois et demi. Et pourtant, le maïs est mûr comme il l'est toujours dans les bonnes années. Si la mine se construit, moi, comme fermier, je me retrouverai littéralement sans aucun revenu pour vivre, sans terre pour travailler. Donc je perdrai tout mon capital. Je n'aurai plus qu'à quitter la Serbie et à changer mon nom, mon prénom et ma religion, tout. S'ils font cette mine, c'est que l'État n'existe pas ici.
Alors que l'Union européenne entame sa transition vers le tout électrique, le président serbe Aleksandar Vučić voit dans cette mine géante une opportunité économique. Il espère faire de la Serbie un leader sur le marché européen des batteries électriques. Une vision que ne partage pas Miroslav Mijatović de la coalition anticorruption PACT.
Pour nous, que ce soit Rio Tinto ou des entreprises chinoises, toutes les entreprises qui viennent en Serbie le font parce qu'elles bénéficient de gros avantages, parce qu'elles n'ont pas à y respecter les mêmes normes environnementales qu'ailleurs. Donc le processus de production leur est beaucoup moins coûteux que dans l'Union européenne. Et nous, nous n'avons rien à y gagner. Rien que pour son fonctionnement, Rio Tinto a un besoin d'électricité quotidien qui est équivalent à celui d'une ville de 35 000 habitants, comme Loznica à côté. côté. Et cette électricité, nous la produisons avec du charbon. Donc nous nous retrouverons avec un environnement pollué et des millions de tonnes de déchets au bord de nos rivières.
Malgré les protestations et une pétition signée par plus de 130 000 personnes, les autorités serbes soutiennent le projet de Rio Tinto. Mais l'opposition est telle qu'à 6 mois des élections nationales, le sujet s'est imposé au cœur des débats politiques et le président serbe a annoncé la tenue d'un référendum afin de décider de l'avenir du projet.
Avec nous en studio, comme tous les jeudis, Alice Roujat. Bonjour Alice.
Bonjour.
Cette semaine, vous nous parlez chiffon, et ça n'a rien de futile. L'impact de l'industrie du vêtement sur l'environnement est bien connu. C'est pour cette raison, et aussi des raisons économiques, que le marché de deuxième main est en plein essor. Selon les pays en Europe occidentale, entre 20 et 75% de la population achète des vêtements d'occasion. C'est variable donc. Mais encore une fois, Alice, ce sont les jeunes générations qui mènent la tendance.
Oui, qu'on se le dise, sans mauvais jeu de mots, le marché d'occasion, c'est pas neuf. Ça remonte même quasiment aux origines de l'humanité, mais depuis la révolution industrielle et l'arrivée de nos sociétés productivistes, l'occasion était réservée aux plus démunis ou alors aux plus experts, ceux qui dégotent des pièces remarquables qu'on appelle aujourd'hui les chineurs.
Et ces chineurs sont aujourd'hui de plus en plus nombreux.
En France, selon une étude réalisée en 2021 auprès des 18-61 ans, 46% des personnes interrogées déclarent avoir acheté au moins un bien d'occasion au cours des 12 derniers mois. C'est 52% chez les Suédois couronnés champions européens.
Le marché du neuf a donc moins la cote ?
De moins en moins, et surtout auprès des jeunes générations séduites par la mouvance Fridays for Future. Si celles-ci ne fréquentent pas forcément eBay ou Le Bon Coin, quoique j'ai des amis qui se créent des alertes sur ces sites de vente d'occasion, elles ont massivement investi le marché des vêtements usagés en achetant 2,5 fois plus d'articles que les autres tranches d'âge. Les jeunes représentent près de 50% du total des acheteurs.
Et qu'est-ce qui motive ces jeunes acheteurs, Alice ?
Bon, déjà, c'est vraiment, littéralement, moins cher. Et puis, encore une fois, leur conscience écolo. Pour le comprendre, quelques chiffres. Il faut 7 à 10 000 litres d'eau pour fabriquer un jean, l'équivalent de 285 douches dans nos pays développés. L'industrie textile utilise 4% de l'eau potable disponible dans le monde. Et avec tous les allers-retours effectués entre la culture du coton, le traitement et l'assemblage, c'est 10% du total des émissions de gaz à effet de serre.
C'est énorme.
Et comme les jeunes générations sont paradoxales, d'un côté très consumériste, une étude du Crédoc réalisée en 2018 auprès des jeunes européens attestent qu'ils sont 30% à attendre avec impatience les soldes contre 18% du reste de la population. Donc d'un côté très consumériste et d'un autre écolo, la solution de la seconde main, un vêtement déjà porté et revendu, c'est un peu du pain béni.
Et la seconde main donc c'est la nouvelle tendance.
Ça fait quelques temps déjà, mais ça s'arrête plus. En Europe, on estime que d'ici 2028, dans le secteur de la mode, la vente d'occasion fera plus de chiffres que la fast fashion et représentera 11% des garde-robes. Petit conseil aux amateurs de fripe, c'est en Pologne que vous trouverez votre plus grand bonheur. Une rumeur dit même qu'on en trouve à chaque coin de rue. Les Polonais arrivent en seconde place du classement européen des consommateurs d'occasion.
Alors, on ne peut pas parler fripe et vintage sans mentionner ces entreprises numériques qui ont bien saisi le mouvement, puisqu'aujourd'hui, c'est sur Internet que ça se passe, Alice.
Tout à fait. Ce secteur s'est massivement digitalisé. Ça tombe bien pour les ONG et autres associations caritatives qui peuvent continuer de vendre des habits à bas prix à leur public. Aujourd'hui, bien que les géants eBay, Amazon ou Le Bon Coin concentrent la majorité des parts de ce marché, pesant pas moins de 7,4 milliards d'euros, des entreprises fleurissent à tout va, très prisées par les jeunes.
Ah oui, moi je peux vous citer Vinted, même si je suis un petit peu plus âgée que vous, Alice.
Bravo Juliette, c'est le leader européen de l'habit d'occasion, vendu de particulier à particulier. Une start-up lituanienne utilisée par 45 millions de personnes rien qu'en Europe. Il y a aussi le français Back Market, qui vend des téléphones et ordi portables reconditionnés. Ces deux entreprises sont ce qu'on appelle en finance des licornes. Ça veut dire qu'elles ne sont pas cotées en bourse, mais qu'elles sont valorisées à plus d'1 milliard de dollars.
Et ce boom du marché de l'occasion, Alice, on peut imaginer qu'il ne concerne pas que le textile.
Non, c'est vrai, il y a les voitures. Sur le marché européen, leur vente devrait progresser d'au moins 5%, mais aussi les meubles, les objets du quotidien, bref, presque tout. Et les supermarchés, temples de la consommation rapide et à usage unique, se mettent même à la page. L'année dernière, 5 magasins d'une grande chaîne d'hypermarchés ont ouvert des rayons de seconde main. Enfin, certains pays ont de l'avance. La Suède a ouvert en 2015 un centre commercial avec uniquement des produits réparés ou recyclés.
Merci Alice Rouja, à la semaine prochaine et rendez-vous d'ici là dimanche avec la bonne nouvelle de la semaine en vidéo avec Enter sur les réseaux sociaux. Recycler pour polluer moins, c'est plus qu'une mode, donc c'est à terme un changement de mode de vie. Dans tous les domaines, l'idée est de faire durer la vie des produits. Mais le recyclage est-il toujours écolo? La Fripe, en tout cas, fait parfois de très longs voyages avant d'atterrir dans les boutiques. En France, on vend des tonnes de vêtements usagés venus, par exemple, des États-Unis. Et nos vêtements européens, la plupart venus d'Asie, finissent souvent, eux, sur les étals des marchés d'Afrique. Par exemple, en Côte d'Ivoire. Et c'est un business très florissant, comme le montre ce reportage à Abidjan de Pierre Pinto.
Dans tous les marchés d'Abidjan, comme ici à Trècheville, nombreux sont les coins friperies, où les vendeurs font l'article de leurs pantalons, sous-vêtements, t-shirts ou maillots de foot. Certains vendent à même le sol, d'autres ont un étal, d'autres encore ont une petite boutique. C'est le cas de Yakuba, qui vend divers articles, dont des fripes, des jeans en particulier, vêtements d'occasion ou invendus, dont les magasins européens se sont débarrassés auprès de revendeurs pour les expédier par balle.
C'est des habits d'occasion. Occasion, ça veut dire que même dans les magasins, que ça fait au moins 2 ans... Que ça ne marche pas, puis ils envoient ça en Afrique ici.
Quand des balles arrivent, les vendeurs sont prévenus par des semi-grossistes qui cassent ces balles pour répartir la marchandise entre les vendeurs de rue ou les propriétaires de magasins.
Lui qui casse la balle, il sait ce qui est le premier choix. Il met ça à côté. C'est-à-dire qu'il peut faire ça à 1 500, 1 500. Et l'autre, deuxième choix, 1 000 francs, 1 000 francs. Troisième choix, 500, 500.
La fripe n'est pas seulement bon marché, elle est souvent réputée de bonne qualité lorsqu'elle vient d'Europe. Et surtout, elle est tendance. Dans ce magasin de lingerie du marché Belleville, c'est ce qu'on vend le plus, explique cette vendeuse.
On fait un tri au fait. C'est en fonction des tailles, des différents marchandises que nous mettons dans des sachets. Premier choix, deuxième choix, il y a toutes sortes de trucs au fait. Il nous arrive d'acheter une balle et de la casser ici. Parce que c'est en fonction de ça, nous pouvons savoir à quel genre de marchandises nous avons affaire au fait. Souvent, quand on casse, on en trouve de beaux.
C'est un peu la surprise.
Voilà, c'est ça.
Par exemple, un ensemble de lingerie là, qui est donc neuf, ça, oui. Vous vendez ça combien?
Ben, ça vaut 7 500.
Et un soutien usagé en dessous, là, c'est combien?
Un soutien usagé en dessous, ben, ça vaut le prix de 3 000. Ben, si le client discute, on peut lui laisser à 2 500.
Une grande partie des fripes qui alimentent le marché ivoirien n'arrivent pas par le port d'Abidjan, jugé trop cher par de nombreux commerçants qui lui préfèrent les autres ports de la région. Même avec le coût du carburant, cela reste plus intéressant, explique ce revendeur.
Nous, les hommes d'affaires, nous préférons aller au Ghana, puisque là-bas, les trucs sont un peu moins chers.
L'industrie textile ivoirienne a périclité dans les années 90 avec l'arrivée massive des vêtements chinois et asiatiques. C'est l'une des raisons qui ont poussé au développement de l'importation de vêtements usagés d'Europe. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire espère ressusciter les grandes usines textiles qui faisaient la gloire de Bouaké en son temps, celle de Gonfréville, où le Premier ministre Patrick Hachi s'est rendu il y a quelques jours.
Le président Alassane Ouattara a souhaité que nous faisions une halte dans cette usine mythique qui a été en fait à l'origine véritablement du développement de la ville de Bouaké. Les premiers pagnes qu'on a eus, qui ont été, je dirais, le symbole de développement de la confection, sont partis de ces premières unités de filature, de tissage et de confection ont fait la gloire de l'industrie ivoirienne. Pour des raisons multiples, l'industrie a connu d'énormes difficultés. Donc, il nous a demandé de nous arrêter et de lui proposer le plus rapidement possible un programme de relance.
La Côte d'Ivoire est le deuxième producteur de coton de la sous-région. Mais comme ses voisins, elle exporte la quasi-totalité de sa production. Dans les pays de la CEDEAO, seuls 2% de la production de coton est transformée localement. Bien.
Accent d'Europe était réalisé par Nicolas Benita. Rendez-vous sur le site de la Radio du Monde, à la page podcast et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.